إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الكرام، سنتحدث في هذه المحاضرة عن موضوع له أهمية بالغة، لأنه يتعلق بالعقيدة، يتعلق بالعقيدة، والعقيدة كل واحد منا مطالب أن يصححها وأن تكون صالحة نقية صافية. لكن كيف الأسباب؟ كيف سنحافظ؟ كيف سنحافظ العقيدة؟ فهذا موضوع هذه الكلمة. ثم رأيت أن نغى إلى كتيب أو رسالة ألفها أحد المشايخ المعروفين في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والشيخ معروف عند الكثير منكم، والشيخ عبد الرزاق البدر، فقد ألقى محاضرة ثم فرغ منها وكتب في رسالة وسماها ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغييرات. هذا عنوان المحاضرة، هذا عنوان المحاضرة، ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغييرات. الشيخ في هذه الرسالة سيذكر لنا كيف السلف حافظوا على إيش؟ على العقيدة، كيف حافظوا عليها، كيف وصلت إلينا اليوم بدون تغيير وبدون تبديل وبدون تحريف، كيف؟ هذا ما سنذكره خلال هذه المحاضرة. فالموضوع مهم جدا، الموضوع مهم جدا، فلكل أحد من الإخوة أن يكتب ما سنذكر، لأن هذا أمر نظري، سنذكر أمر نظري، لكن هذا مفيد له، بل لابد أن يطبقه في إيش؟ في حياته اليومية. يعني العقيدة كما سنرى لها مكان رافع جدا. طيب، c'est que notre cours va reposer sur un sujet qui est très 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 important. Pourquoi il est important? Parce qu'en fait, il se rattache à la croyance. Même plus, ce cours est basé sur la croyance. Et quand on dit la croyance, c'est un terme qui est général. Voyez? Et ce qu'on veut par là, c'est savoir comment le musulman, il doit protéger sa croyance. Comment, après avoir acquérir cette croyance de la meilleure des façons, comment il va en fait la protéger. Et comme on l'a dit, on va se baser par rapport à ce sujet qui est important sur une des risalas, c'est-à-dire un petit ouvrage qui a été écrit, qui a été une muhabara d'un des chers que tout le monde, que beaucoup de gens connaissent, et qui est Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, qui est le fils bien entendu du grand savant de Médine, Abdel Mohsin al-Abbad. Et en fait, le sujet de cette risala, au nom qu'on comprend dans cette muhabara, c'est-à-dire dans ce cours, c'est thabatu aqidat as-salaf, c'est-à-dire la fermeté et la stabilité de la croyance des salaf. Bien sûr, ce terme salaf, inshallah, il est connu pour tout le monde. Lorsqu'on dit salaf, on traduit le terme par prédécesseur. C'est-à-dire salaf, c'est tout simplement sahaba. Donc, les premiers des salaf, c'est les sahaba, ensuite ceux qui les ont suivis, ceux qui les ont suivis. Et bien sûr, on va voir, on va revenir sur la connaissance des salaf. On va revenir dessus durant le cours. Ala kulli hal, thabatu aqidat as-salaf, c'est donc la stabilité et la fermeté de qui, ou de la croyance de qui, des salaf, des prédécesseurs, et des pieux bien sûr prédécesseurs. Wa salamatuha min at-taghyirat, c'est-à-dire son, à cette croyance, son intégrité et son salut de tout changement. Son intégrité et son salut de tout changement. C'est-à-dire que, comment ces salafs, ils ont eu une croyance qui était ferme, et comment ils l'ont protégée, et comment elle est venue avec nous, sans même un changement, comme on l'a dit en introduction en langue arabe. Donc ça, c'est un point qui est fondamental. Et on va voir que le shir, à travers cette risala, il va nous rappeler 15 moyens, ou plutôt, pour être plus précis, 15 causes. Il va nous rappeler 15 causes. Comment ils ont protégé leur croyance, les salafs. Et bien entendu, nous, nous devons les suivre. C'est-à-dire que ce sont ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avant cela Allah, azzawajal, dans le Coran, comme on va le voir, et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné de les suivre, de suivre leur voie. Donc bien entendu, dans cela, ça va être un modèle pour nous. Et donc, on va pouvoir, ça c'est un cours bien sûr qui va être théorique, et on va pouvoir bien entendu, et c'est cela le profit de ce cours d'aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir en fait l'appliquer dans la vie de tous les jours. Et ce qui est le plus important pour le musulman. C'est-à-dire que la place de la croyance pour le musulman, c'est ce qu'il y a de plus important. فَإِنَّ لِلْعَقِيدَةِ السَّلَفِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ النَّقِيَّةِ النَّقِيَّةِ الصَّافِيَّةِ الْمُتَلَقَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهَا مَكَانٌ لَا مَكَانَةٌ وَمَنْزِلَةٌ رَفِيعَةٌ جِدًّا بل هي كمنزلة القلب من الجسد وكمنزلة الأساس من البنيان وكمنزلة الأصل من الشجرة. يقول الله عز وجل في كتابه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت فرعها في السماء. الله عز وجل سمى وذكر وصف أصل هذه الكلمة وكلمة التوحيد لا إله إلا الله التي تنبنى عليه العقيدة. فهذه الكلمة أصل ثابت. انظروا ثابت والشيء ذكر في العنوان ثبات عقيدة السلف. طيب, on a dit en fait, on rappelle que cette croyance-là, ce qui est le plus important pour le musulman. Pourquoi? Parce que cette croyance-là, par rapport au musulman, elle a la même place que le cœur il a dans le corps. La place que le cœur il a dans le corps. De même, la place que a le fondement par rapport à l'bunyan, c'est-à-dire la bâtisse. Et également, par rapport à quoi? Par rapport al-asl, c'est-à-dire la source ou plutôt le tronc de l'arbre et les racines âmes de l'arbre. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla il dit dans un des versets du Coran, dans la traduction du sens, n'as-tu pas vu comment Allah propose une parabole, une bonne parole identique, pareil, à un bel arbre, sa racine est ferme. Donc on est en train de parler de quoi? Lorsqu'on dit sa racine est ferme, on est en train de parler bien entendu de l'arbre. Et cet arbre-là, c'est une parabole qu'Allah Azza wa Jal lui donne et qui compare à quoi? À un arbre. Et cet arbre-là, il a un asl, c'est-à-dire il a une racine. Et cette racine, elle est comment? Elle est ferme. Et la croyance des salafs, elle était de même ferme. Thabit, donc on revoit le terme ici employé dans le Coran, et le terme que le shir a employé pour écrire cette risala, pour nous faire comprendre l'importance du sujet. Sa racine est ferme, et sa ramure s'élance dans le ciel. Wa farwa fi sama. Donc elle est ferme, elle est stable dans le cœur de ceux qui la détiennent comme il se doit. et de par elle, et c'est ce que va nous rappeler le Shir en introduction, il va nous dire que de par elle, de par cette croyance-là, les salafs, ils faisaient toutes choses. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'était en fait comme un souffle de vie. C'était comme un souffle de vie la croyance pour eux. C'est-à-dire qu'à partir de la croyance, ils faisaient toutes leurs actions. À partir de la croyance, ils s'élançaient dans leurs projets. Donc en fait, la croyance était comme un souffle de vie. Wallah musta'an. Jusqu'à ce qu'on a dit que pour eux, la croyance était encore plus importante que la nourriture et la boisson. Que la croyance pour les salafs était encore plus importante que la nourriture et la boisson. Et on va voir tous les asbab, toutes les causes qui ont fait qu'ils ont pu en fait, grâce à Allah Azzawajal, protéger cette croyance. Et qu'elle est venue avec à nous, cette croyance, d'une manière saine. Et qu'elle est venue intacte, loin de tout changement. Également les résultats de cette croyance, c'est-à-dire maintenant le nataïj, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Le nataïj, c'est tout simplement une droiture, al-istiqama, une droiture dans leur mode de vie, dans leur comportement également dans leur minhaj, c'est-à-dire qu'ils ont eu al-istiqama, al-thabat, fi minhajim, wa kadalik fi sulukim, c'est-à-dire dans le comportement et également dans quoi? Dans leur mode de vie, de façon générale. Ça a été une droiture. Les salafs, lorsqu'on regarde leur vie, on voit qu'ils ont été droits de la meilleure des façons. Une droiture et une intégrité. Et ça, c'est venu de quoi? De leur croyance. C'était en fait le résultat de cette croyance. Également, c'était une aide fondamentale. C'est un tawfiq lahum. Pourquoi? Pour non seulement l'obtention de la réussite, et également la droiture et l'intégrité. Et un des plus grands résultats que l'on va voir chez eux, c'est quoi? C'est le fait qu'ils se soumettent entièrement à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Parce que leur croyance elle est bonne. Leur croyance elle est sincère, leur croyance elle est bonne, ils se sont alors soumis à Allah Azza wa Jalla d'une manière des plus pures. Et c'est pour ça que l'on trouve beaucoup de versets du Coran qui vont dans ce sens. Faqouli subhanahu wa ta'ala, فَلَا وَرَبِّكَ لَيُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Dans ce verset, on voit Allah Azza wa Jal يقول فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal dit فَلَا وَرَبِّكَ, par ton Seigneur, nous croirons pas. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ, c'est-à-dire qu'ils te prennent comme juge par rapport à leur litige. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas trouver en eux-mêmes la moindre gêne par rapport à quoi? Par rapport en fait au verdict que tu vas donner, par rapport au choc que tu vas donner. Ils n'auront à eux-mêmes aucun haraj. Ou le haraj c'est quoi? Le haraj c'est tout simplement la gêne. La gêne, ils ne vont même pas trouver une seule gêne au fond d'eux-mêmes. C'est-à-dire un taslim complet, c'est-à-dire une soumission complète à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. Ça c'était le résultat principal et fondamental de quoi? De leur croyance, de cette croyance qu'ils ont acquis de la meilleure des façons et qu'ils ont protégée, et on va voir les causes, comment ils l'ont fait. Donc, pour revenir au sujet, ils ont une bienfaisance qui est absolue. Ils ont une observation minutieuse des salafs de cette croyance, jusqu'à ce qu'ils ont compris que c'était la véritable vie du cœur. C'est la véritable vie du cœur. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla yaqul يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لما يحييكم, c'est-à-dire oh vous qui avez cru, oh vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah, استجيبوا لله وللرسول, et à l'appel du prophète, إذا دعاكم, lorsqu'il vous appelle, لما يحييكم إذا دعاكم لما يحييكم, c'est-à-dire dans ce qui va vous donner la vie. Ou yuhyikum qui vient du terme al-ihya. Et l'ihya qui est le fait de donner la vie. Donc on voit que ça, haqiqatul qalb, ou haqiqatul qulub, c'est quoi? C'est cette croyance. C'est cette croyance, ça c'est la vraie vie du cœur. Si cette croyance elle est bonne, alors ton cœur il va vivre comme il se doit. Et sainement. Alors que si cette croyance elle n'est pas bonne, automatiquement, qu'est-ce que ça va faire, ou qu'est-ce que ça va avoir comme influence, et qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer tout simplement une vie qui n'est pas en réalité une vie, bien au contraire. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa hadith, il nous dit celui qui الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله الحي والميت c'est-à-dire celui qui rappelle Allah, qui se rappelle Allah Azzawajal, bien entendu basé sur une bonne croyance, et celui qui ne se rappelle pas Allah, la parabole qui nous donne le prophète Salam entre les deux, c'est comme celui qui est vivant et celui qui est mort. Comme celui qui est vivant et celui qui est mort. Lima yuhyikum. Lima yuhyikum. Pour ce qui vous donne la vie, la véritable vie du cœur. Et ça, les salafs, ils l'ont compris. Et c'est pour ça qu'ils l'ont appliqué. Et c'est pour ça que on a vu le résultat dans leurs actes et dans tout ce qu'ils nous ont laissé en héritage. Par rapport également à un point qui est important et qui va nous permettre de savoir concrètement quel est l'intérêt qu'ont donné les salafs à la croyance. C'est tout simplement lorsqu'on regarde ce qu'ils ont écrit, leur ouvrage écrit. On va voir qu'il y a des milliers de livres qu'ils nous ont laissés. Pas un livre, pas une dizaine de livres, pas une centaine, des milliers de livres qui nous ont laissés les salafs. Des livres qui sont soit d'ordre général, c'est-à-dire qui vont parler sur tous les points de la croyance, ou alors des livres qui vont parler sur un point précis de la croyance, ou alors des livres, donc des livres qui vont être généraux, des livres qui vont être détaillés, des livres qui vont mettre en évidence les arguments et qui vont mettre en évidence les témoins argumentatifs, shawahid. Des livres qui vont mettre également en évidence Wajh al-Istidlal, c'est-à-dire l'aspect argumentatif des preuves qu'ils vont rapporter par rapport à la croyance. Également des livres qui vont traiter et qui vont réfuter la croyance de ceux qui se sont égarés. Et on voit que beaucoup, dans beaucoup, beaucoup de livres parmi les salafs, et cela afin de protéger cette croyance, et ça, ça a été également une des causes, c'est qu'ils ont tout simplement réfuter ceux qui ont essayé d'introduire ce qui n'était pas de cette croyance et qui ont essayé en fait de falsifier ou qui ont essayé de polluer cette croyance. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de livres où les gens de la sunna du consensus, ces salaf, ils vont réfuter tout cela. Et ça, ça nous montre l'importance qu'ils ont donnée à la croyance. Ça, c'est une preuve de l'importance de la croyance qu'ils ont donnée. L'importance qu'ils ont donnée à la croyance. Et si on regarde bien, si on regarde subhanallah, les livres des salafs, lorsqu'on regarde et on lit les livres des salafs, on va voir que tu lis pas trop quatre lignes sans que tu profites beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de richesse dans ce que tu vas lire. Contrairement à beaucoup de livres qu'on lit aujourd'hui. Néanmoins, on trouve des livres, des tomes complètes. Lorsque tu lis, tu vas pouvoir tirer 5 ou 6 bénéfices dans un tome complet. À l'époque, les salafs, pourquoi? Parce que Allah Azzawajal leur a donné la baraka par rapport à leur bonne intention, par rapport également au grand juhud, c'est-à-dire au grand effort qu'ils ont fait pour protéger cette croyance. On voit en fait que le peu qu'ils ont écrit, dedans il y avait la baraka, et qu'on va profiter une seule page et tu vas profiter beaucoup, beaucoup de profits, beaucoup, beaucoup de bénéfices dans ce que tu vas lire, contrairement à ceux qui sont venus après eux. Ça, ça fait partie également de la baraka qu'on a trouvée par rapport à la science. Et pour ce qui est des salafs. Et comme on l'a dit, Wallah al-Musta'an, c'est que malheureusement, dans l'islam, et dès les premiers temps, il y a des gens qui sont apparus et qui ont dévié de cette croyance. Et cela, ce n'est pas une chose qui doit être étrange à nous. Pourquoi? Parce que le prophète sallam lui-même, il nous l'a informé. Il nous l'a informé, le prophète sallam, de ce qui allait se passer. Donc c'est quelque chose qui n'est pas étrange à nous. Et que les gens de l'innovation allaient apparaître, et que ces gens-là allaient déformer cette croyance. Et eux, pour les contrer, comme on a rappelé, les salafs, ils ont écrit donc des réfutations. Et par rapport au hadith qui nous prouve cela, le hadith connu de Al-Irbad, radiyallahu ta'ala anhu, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, innahu man ya'ish minkum ba'di, fasayara ikhtilafan kathira, fa'alikum bi sunnati wa sunnati al-khulafai al-rashidin al-mahdiin min ba'di. تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابو داود وغيرهما وهو حديث صحيح. من ce hadith où le prophète صلى الله عليه وسلم il nous a informé de ce qui allait se passer, il nous a informé de ces gens qui allaient être des musulmans mais qui allaient bien entendu s'écarter de la croyance saine. Et dans ce hadith où le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit qu'il va y avoir beaucoup de ceux qui vont vivre après lui, après le prophète, ils vont voir beaucoup de d'irtilaf. Beaucoup d'irtilaf. Irtilaf en kathira, c'est pas un seul irtilaf, beaucoup d'irtilaf. Et qu'est-ce qu'il nous ordonne à ce moment-là, le prophète sallam ? Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiin, c'est-à-dire accrochez-vous à ma sunna et à la sunna du prophète, c'est-à-dire à la sunna du prophète, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna également des compagnons, aoul khulafa, des califes bien guidés, des califes qui sont bien guidés. Et il nous dit tamassak biha, tamassuk, et le fait de s'accrocher avec force, wa yazid an-nabi sallam wa 'addu 'alayha bin nawajir, c'est-à-dire de s'accrocher avec la molaire, tellement il faut s'accrocher, tellement c'est une parabole pour nous montrer qu'on doit s'accrocher à cette sunna du prophète sallam et qu'on doit s'accrocher également à la sunna des sahaba. On va revenir sur des points également qui sont importants à ce sujet. Et bien entendu, ensuite le prophète sallam, il nous a mis en garde des bid'ah, il nous a mis en garde des mauvaises choses, c'est-à-dire des choses qui ont été innovées, des choses qui n'étaient pas présentes de son temps et non du temps des compagnons, et qui ont été donc, qui sont sortis de ce cercle-là. Et il les appelait muhdathat, et il les appelait ensuite bid'ah, c'est-à-dire des choses nouvelles, et que ces choses nouvelles sont des innovations, et que toute innovation nous fait rentrer dans le feu. Toute innovation. Toute innovation. D'une istithna, c'est-à-dire sans une seule istithna, c'est-à-dire sans une seule exception. Toutes. Également dans un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, salawatullah wa sallamun alayhi, افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. également dans ce hadith où le prophète sallam nous a rappelé ce qui allait se passer. Il nous a rappelé que les juifs et les chrétiens, ils s'étaient divisés dans leur religion. Ils sont divisés par rapport à quoi ? Par rapport à la croyance. Le marsoud ici, c'est la croyance, c'est par rapport à la croyance, rien d'autre. C'est par rapport à la croyance qu'ils sont divisés, et qu'ils vont s'égarer donc de la voie. Et que cette communauté, et dit bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette communauté, dans sa taftariq ummati, ummati, il dit cette ma communauté, il a dit, le prophète sallam, ma communauté, c'est la communauté du prophète, donc des musulmans. C'est un tariq ummati à la falafa wa sebaïna firqa. C'est-à-dire, en 73 sectes. Et tous, bien sûr, seront sauvés. Ou enfin, tous seront dans le feu. Kullu wa finna, tous seront dans le feu. Sauf une. Et celle-là, c'est al-jama'a. Al-jama'a, c'est-à-dire le groupe al-maqsoud bi al-jama'a, comme est vu dans l'autre riwayat, dans l'autre, en fait, version. Il dit le prophète sallam, Ma'ana alayhi al-yum, c'est-à-dire sur soi, sur ce que je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. C'est-à-dire al-jama'a, les compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui sont rapprochés avec le groupe des compagnons, et bien entendu, eux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, alhamdulillah, non seulement dans ce hadith, mais également dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que sans cette communauté, il restera un groupe. Le groupe sauvé. Et dans un autre hadith, il nous a dit le groupe assisté. Et ce sont les mêmes groupes. C'est-à-dire, sont la même signification. Aucune différence entre tous ces hadiths par rapport à la désignation de ce même groupe. C'est pour ça qu'il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, « La tazalu ta'ifatun min ummatin ala al-haqqi zahirin wa fi riwayatin mansurin la yadurruhum man khalalahum wa la man khalafahum illa an yati Allahu bi amri wa fi riwayatin ila qiyam sa'a. » Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous informe qu'il reste une communauté ou un groupe qui sera toujours sur la vérité. Zahirin al-haq. Ils sont sur la vérité et sur cette vérité-là, ils sont gagnants. Zahirin al-haq. Mansourin, c'est-à-dire assisté. Et c'est pour ça qu'on appelle Firqatul Mansoura ou qu'on dit Firqatul Najia, comme dans notre hadith. Ce sont tous les mêmes termes. Ou que l'on dise Al-Sunnati ou Al-Jama'a, ou que l'on dise Al-Salaf Salih, tout ça va revenir en fait à la même désignation, pour désigner ceux qui ont conservé leur croyance comme elle est venue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam alayhi. Taïb, dans ce hadith, il y a qu'il y a qiyam sa'a. Dans un autre hadith, on sait que qiyam sa'a, c'est-à-dire que l'heure, elle va se dresser sur les gens où c'est les pires des gens. Shirar al-khalaq. Et dans une autre version, dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmed, elle viendra l'heure, alors on ne trouvera pas une personne qui dira, ou des personnes qui diront Allah, Allah. Et dans une autre riwayat, La ilaha illallah. Donc comment on comprend ce hadith? Comment on comprend ce hadith? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ila qiyam sa'a ». Qui c'est qui répond à cette question? Ça a été compris, cette question. On sait que l'heure, elle va se dresser sur les pires des gens. Et qu'il ne restera plus à ce moment-là ceux qui diront « Allah, Allah ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans ce hadith qu'il reste un groupe jusqu'au jour du jugement. « Ila qiyam sa'a » jusqu'à ce que se dresse là. Donc comment on comprend et comment najma baina al hadith? كيف اجابوا العلماء ايوا احسنت لا تزال الطائفه المعنون الى قيام الساعه الى قرب قيام الساعه الى قرب قيام الساعه on sait qu'il y a un vent, ça fait partie des signes pour la fin du monde, qu'il y a un vent qui va venir emporter toutes les âmes des croyants qui resteront à ce moment-là. Et à partir de là, l'heure, elle se dressera. Donc, Marna, il a pour ça. On va rentrer, Inch'Allah, dans le vif du sujet. Et on va rappeler maintenant les 15. Je dis bien les 15. Et on va voir que ces 15 causes, il y a certaines causes qui sont proches l'une de l'autre. Mais le Shia, dans cette Risala, il les a bien détaillées. Pourquoi? Parce que c'est important. Chaque cause va avoir son importance, même si on pourra s'apercevoir que des moments filtrent d'Akhul, c'est-à-dire qu'il y a entre certaines causes, il y a en fait certaines causes qui vont entrer dans d'autres causes. Mais en vérité, c'est bel et bien 15 causes, elles sont bien précises et il faut bien les détailler, car toutes elles ont leur importance. Et c'est maintenant qu'il est demandé à chacun, et même si cela a été demandé depuis le début du cours, d'ouvrir ses oreilles et de prendre des notes et à nous tabir, c'est-à-dire qu'on mette en pratique. C'est pas seulement de venir à des cours, les écouter, repartir chez soi. C'est-à-dire, au moment où on va repartir chez soi, il faut qu'il y ait un bénéfice. Qu'on ait pris une séance, qu'on ait pris un bénéfice et qu'on puisse ensuite l'appliquer. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ilm al-nafi. Il nous rappelle le shir, la première cause. La première cause qui est al-i'tisamu. اعتصام السلف بالكتاب والسنة هذا السبب الأول الذي ذكره الشيخ اعتصام السلف بالكتاب والسنة c'est-à-dire comment on pourrait traduire se raccrocher au Coran et à la Sunna. Le fait de se raccrocher au Coran et à la Sunna, c'est ce qui a été une des causes que la croyance des salafs ou que les salafs ont protégé leurs croyances. وَإِمَانُهُمْ بِجَمِعِ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ Et ils ont cru dans tout ce qui est venu dans le Coran et le Sunna, sans délaisser aucune chose. Ils ont cru en tout. Et on sait que l'iman, elle est soit mujmal ou soit mufassal. C'est-à-dire que certains points de la croyance, elle va être dite général et d'autres détaillés. À titre d'exemple, on sait par exemple que les livres d'Allah qui sont descendus sur les prophètes, il y en a beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'on les sait tous? Est-ce qu'Allah Azzawajal les a tous rappelés dans ce Coran? Non. Ceux qui n'ont pas rappelé, et on sait qu'il y en a eu beaucoup, on y croit de façon générale. Ça, c'est Al-Iman Al-Mujmal. Par contre, ceux qui ont été cités dans le Coran, on sait sur qui ils sont descendus, et on sait de façon générale ce qu'ils ont englobé, alors là, on doit avoir ce qu'on appelle l'iman al-mufassal, c'est-à-dire une foi qui doit être détaillée. Détaillée parce que ce qui nous est venu ici, c'est détaillé. De même pour les prophètes, on sait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de prophètes qui sont venus et qu'Allah Azzawajal a envoyé. Parmi ces prophètes, ceux qui ont été cités dans le Coran, les 25 qui ont été cités dans le Coran, et d'autres qui n'ont pas été cités. D'autres qui n'ont pas été cités que l'on ne connaît pas. Ceux que l'on ne connaît pas, on sait qu'il y en a eu beaucoup, 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 on y croit ce qu'on appelle l'iman mujmal. Et ceux qui ont été cités par leur nom, et on sait qu'est-ce qu'ils ont eu avec leur peuple et tout ce qui a été rapporté par rapport à eux, alors ici c'est quoi? C'est iman mufassal. C'est une foi qui va être détaillée. Donc eux, ils ont eu foi en tout. Que ce soit mujmal ou que ce soit mufassal, les salafs, ils se sont raccrochés à tout cela et ils ont cru en tout cela. Ça, c'est une des premières causes qui a fait qu'ils ont conservé leur croyance. Et c'est pour ça que beaucoup de salafs ils disaient min Allahi al-risala wa ala rasul al-bala' wa alayna al-taslim. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal il lui a incombé al-risala, c'est-à-dire de nous donner la lettre. Allah Azza wa Jal nous a apporté la lettre ou le message, al-risala, le message. Ou ala rasoul al-bala', c'est-à-dire que le prophète sallam lui il lui a incombé de transmettre. Ou alayna at-taslim, et nous il nous incombe de quoi? De se soumettre à cela. Ça c'est une parole qui revenait beaucoup chez les salafs et qui montrait qu'ils s'approchaient donc à ce qui venait dans le Coran et dans la Sunna. Et on va rappeler une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. On va rappeler certaines paroles des grands savants de l'islam. Pourquoi? Parce que c'est important de nous rappeler comment les savants de l'islam nous ont écrit à ce sujet et pour profiter également de leur science directement, c'est-à-dire en se rappelant et en citant leurs paroles et ensuite la traduisant. En ce qui concerne ce sujet-là, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ماذا يقول؟ يقول جماع الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك أن يجعل ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه. طيب il nous dit à l'islam Ibn Taymiyyah quel furqan, c'est-à-dire le discernement qui va discerner donc la vérité du faux, la guidance de l'égarement et également la voie du bonheur et ce qui va nous permettre de nous sauver de la voie du malheur et de ce qui va nous mener à notre perte. أن يجعل ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتبه والحق الذي يجب اتباعه. Qu'il place tout ce qu'Allah fait descendre et ce que le prophète sallam tout ce qu'Allah a fait descendre comme livre et ce qu'il a envoyé comme prophète, tout ce qui est venu de ces deux sources, que ce soit la vérité et que ce soit une obligation pour nous de le suivre, une obligation pour nous de le suivre. Et ensuite il dit وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان فيصدق بأنه حق وصدق وما سوى من كلام سائر الناس يعرض عليه فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل وإن لم يعلم هل هو وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجمل لم يعرف مراد صاحبه أو عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو تكذيبه فنمسك ولا يتكلم إلا بعلم والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول. Ça c'est une parole qui est importante. Il nous dit ensuite, cher Islam, il nous dit si on a suivi donc cela et si on les a, on a placé le livre et la sunna comme étant une obligation que l'on doit suivre, وَيَعْتِسَمْ بِهِ, que l'on doit s'accrocher à cela. Il nous dit que grâce à cela on va avoir discernement, on va pouvoir discerner également al-huda, al-huda c'est-à-dire la guidance, et également al-ilm, la vraie science, et également on va acquérir al-iman, c'est-à-dire la foi. Il dit donc il doit reconnaître comme étant la vérité tout ce qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que ce soit une vérité et que ce soit une véracité et que tout ce qui est en dehors de cela, c'est-à-dire parmi les paroles des gens, alors il y a plusieurs choses. Il nous dit, soit si on prend cette parole et on la met comme en fait dans la balance, c'est-à-dire qu'on va la remettre par rapport, on va regarder par rapport à la parole d'Allah et la parole du prophète. Si elle est mouafiq, si elle est en fait conforme, on la prend. Si elle n'est pas conforme, on la rejette. Ou sinon, si c'est une parole qui est mujmal, c'est-à-dire une parole d'une personne, elle a dit cette parole de façon globale, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qu'elle a voulu dire. On ne sait pas ce qu'elle a voulu dire. Dans un premier temps, soit parce que justement elle est globale, cette parole, on ne sait pas le vrai sens de cette parole-là, ou alors comme il nous dit le shir, أَوْ قَدْ عُرِفَ مُرَادُهُ وَلَكِنْ لَمْ يُعْرَفْ أَجَاءَ الرَّسُولُ بِتَصْدِيقِهِ وَتَكْذِيبِهِ, ou alors on a patience par rapport à ce qui a été dit. Est-ce que le prophète sallam il a dit, ou est-ce que le prophète sallam il a dit la même chose, ou est-ce que c'est une chose qui va contraire à ce qu'a dit le prophète sallam? Alors non, à ce moment-là, lorsqu'on ne sait pas, tout simplement, on nous dit le shir yumsik. C'est-à-dire, on doit s'arrêter, on ne doit pas parler de cette parole-là. C'est-à-dire, il nous dit, فَلَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِالْعِلْمِ. C'est-à-dire qu'on ne parle que par science. Et on délaisse ceci. On ne parle que par science. Et nous, الْعِلْمُ مَا قَمَا عَلَيْهِ الدَّلِيلِ. C'est-à-dire que la science, c'est celle qui repose sur une preuve. وَالنَّافِعُ مِنْهُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ. et ce qui est utile, donc la science utile, et ce qui est utile, ce qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la science utile. Al-ilm nafi'. Il disait également sur l'islam Ibn Taymiyyah rahmatullah, man faraqa ad-dalil dalla as-sabil wa la dalila illa ma ja bi ar-rasul. Man faraqa ad-dalil dalla as-sabil. Il dit celui qui s'est séparé de la preuve, ad-dalil, alors il s'est égaré. Donc on voit que le terme dalil ici, on sait qu'à la base le terme dalil c'est le guide. Vous savez, lorsqu'on prend un guide pour un chemin, pour qu'il nous indique le chemin, on appelle ça dalil. Ça c'est un dalil à la base, au niveau de la langue arabe. Et si on n'a pas ce dalil, c'est-à-dire si on a délaissé ou si on s'est séparé de ce guide, alors automatiquement on va s'égarer. Et c'est ce qui arrive pour ce qui est de la preuve et qu'on appelle également dalil au niveau de la science. C'est pour ça qu'il dit Men faraqa ad-dalil dalla as-sabil. Celui qui a donc qui s'est séparé de la preuve, il s'est égaré. Il s'est égaré du droit chemin. Sabil. Voilà dalila illa ma ja bi ar-rasul. Et il n'y a pas de preuve sauf ce qui est de ce qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également une autre parole qu'on rappelle d'un savant, qui est une parole qui est importante, et qui est celui qui a expliqué l'aqida al-tahawiyya, qui est bien sûr la croyance connue de tout le monde, Ibn Abi al-Izz, rahimahullah, et qui disait Kayfa yuram al-usul ila ilm al-usul bighayri ma ja'a bihi ar-rasul. C'est-à-dire comment peut-on arriver à la science, ila ilm al-usul, la science des bases, et qui est la science du tawhid, et la science de la croyance, بِغَيْرِ مَا جَاءَ بِالرَّسُولِ, sans comprendre de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Ça c'est la parole d'Ibn Abi al-Izz كذلك, et qui nous prouve donc également ici l'irtisam des salafs. Il disait également une parole sur l'islam Ibn Taymiyyah qui est très importante également et qui nous prouve que les gens de la sunna du consensus c'est ceux qui s'accrochent au problème de la sunna. Ils ne s'accrochent pas à ce que eux ils disent proprement, c'est-à-dire ce qui vient d'eux. Abadan. C'est pour ça qu'il dit sur l'islam Ibn Taymiyyah, لَيْسَ الْاِعْتِقَادُ لِي وَلِمَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنِّي. C'est-à-dire, la croyance, elle n'est pas pour moi et de moi, et non de celui qui est encore plus grand que moi. Il disait, بَلَ الْاِعْتِقَادُ يُخَالَ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَسُولِهِ وَمَا اجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَيُخَالَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَمِنْ أَحَادِيثِ الْبُخَارِي وَمُسْلِمِ وغيرهما من الاحاديث المعروفه وما ثبت عن سلف الامه. Il disait également ce que l'on doit, c'est-à-dire la croyance que l'on doit prendre, on la prend du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le consensus également des salafs. Sur quoi ont reconnu de manière unanime les salafs. Et également il nous dit ce qui est donc venu du livre d'Allah et des hadiths connus comme les hadiths présents dans Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim et également les autres livres et tout ce qui est thabit, c'est-à-dire tout ce qui est attesté parmi les salafs. Ça c'est la parole également de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et il nous dit également une autre parole qui est importante. Si on insiste sur ça, c'est pas pour rien. Et on va voir également ici que dans cette parole, on s'aperçoit que ce grand savant de l'islam, il nous rappelle que tous les salafs ils étaient d'accord et ils sont tous accrochés à cette croyance. Regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit Irtiqad al-Shafi'i رضي الله عنه واعتقاد السلف الإسلام كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية واعتقاد المشير المقتدى بهم كالفضال بن عياد وأبي سليمان الداراني وسيد بن عبد الله التستوري وغيرهم فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين. Il dit que la croyance de l'imam Shafi'i, la croyance de l'imam Malik, la croyance de l'imam Al-Auza'i, Al-Thawri, Ibn al-Mubarak, tous ces grands salafs, et également la croyance de l'imam Ahmed, tous ces grands salafs, ils avaient tous la même croyance. Ils avaient tous la même croyance. Et tous les autres qu'il nous a cités, Kalfubayl ibn al-Ayyad, ceux qu'ils ont suivis. Et il nous dit également, wa kadhalika Abu Hanifa, rahmatullah alayhi. Également, l'imam Abu Hanifa, il dit, wa kadhalika Abu Hanifa, فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء واعتقاد هؤلاء وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وما نطق به الكتاب والسنة. C'est-à-dire qu'il nous dit également l'imam Abu Hanifa, la croyance de l'imam Abu Hanifa c'est la même croyance de ceux qu'il a cité précédemment. Et que cette croyance-là, entre eux, il n'y avait pas de nizar, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas en fait de divergence, il n'y avait pas en fait de différence entre leurs croyances, et que cette croyance-là, de tous ces gens-là, il a cité al-madhahib al-arba'a. On a vu, il a cité les quatre grands madhahs. C'est-à-dire que l'imam Malik, que l'imam Ahmed, que l'imam Shafi'i, que l'imam Abu Hanifa, ils avaient la même croyance. Alors comment on peut entendre des moments, des gens qui disent « Hada fil madhab Shafi'i wa fil i'tiqad Ash'ari » Wallahu musta'an. On entend certaines personnes qui disent « Cette personne-là, dans le fiqh, c'est un Shafi'i. Et dans la croyance, c'est un Ash'ari. » Wallahu musta'an. C'est-à-dire qu'il a pris sa croyance d'une autre source que cela, c'est-à-dire que l'imam Shafi'i et d'autres ont pris leur source. Et ils sont revenus à eux, c'est-à-dire pour ce qui est des branches, ils ont délaissé, c'est-à-dire leur croyance et leur firq, sachant que certains savants appellent la croyance le firq al-akbar, c'est-à-dire le grand firq, comme l'imam Abu Hanifa et d'autres, qu'ils ont délaissé ce firq-là, qui est le plus important et qui est même la base. Wallahu musta'an. Alors que, comment on a rudd alayhim, on dit que tous les salaf et les quatre madhab, soit l'imam Malik et les autres, ils étaient tous d'accord par rapport à la croyance. Et aucune divergence entre eux. Et ça, on va y revenir sur ce point. Et il nous dit donc, pour ce qui est de l'imam Abu Hanifa, que ce soit le tawhid ou le qadar, tous, ils ont été d'accord. Ils ont été unanimes pour cette croyance-là. Le deuxième point, ou la deuxième cause, اعتقاد السلف أن الكتاب والسنة أن الكتاب والسنة مشتملان على المعتقد الحق لا نقص فيهما بوجه بأي وجه من الوجوه بأي وجه من الوجوه. Ça c'est le deuxième point. C'est-à-dire qu'ils ont la croyance des salaf que ce qui est venu dans le livre et la sunna مشتملان. Qu'est-ce qui veut dire ce terme مشتملان? Ça c'est un terme qui est important. C'est-à-dire que c'est complet. C'est-à-dire que c'est complet et parfait. Mouchtamilan. Alors, le mu'taqad al-haq. Donc, suivant la croyance qui est véridique. La naqsa fihima. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de naqs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en fait, d'imperfection. Il n'y a pas de manque dans cette croyance-là. Ça aussi, c'est la croyance qu'ils ont eue. C'est important de se rappeler. Parce que la personne, à partir de ce moment-là, lorsqu'elle sait qu'elle est mouchtamilan, al-kitab al-sunna, mouchtamilan. C'est-à-dire que c'est complet. Il n'y a rien à rajouter et rien à enlever. Et qu'elle est venue telle qu'elle, et qu'elle est venue sans même un oubli. Et qu'elle est complète. Et le verset connu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Il nous dit Allah Azza wa Jalla dans ce verset, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Donc c'est une religion qui est complète. Al-kitab wa sunna mujtamilan, c'est-à-dire que c'est complet. La naqsa fihima, il n'y a aucune imperfection à l'intérieur de cela. Et ça, c'est une croyance ferme que l'on doit avoir, et ça nous permet de quoi? An-nuhafir, c'est-à-dire que l'on protège cette croyance. Et également un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va dans ce sens et qui nous prouve également ce qui est rapporté dans cette cause-là. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم من شر ما يعلمه لهم. C'est-à-dire que c'est un droit pour chaque prophète qui sont venus avant lui, avant le prophète sallam, par rapport à leur communauté, un droit donc que la communauté a par rapport à tous les prophètes, c'est qu'il leur montre tout le bien qu'ils connaissent. Qu'il montre tout le bien qu'il connaisse à sa communauté. Ici, une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré tout le bien. Tout ce qu'il a su combien, salawatullah wa sallam alayhi, tout ce qu'il a su combien, il nous l'a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a rien délaissé. Et tout ce qu'il a su comme mal, il nous en a averti. Tout ce qu'il a su comme mal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a averti. Donc, mujtamil atlan, c'est-à-dire que c'est complet. Et il nous dit également, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, une parole également qui va dans ce sens qui est important de comprendre. Il dit Inna Rasulullah bayyana jami' ad-din. Le prophète sallam a mis en évidence toute la religion. Usulahu wa furu'ahu, c'est-à-dire ses bases et ses branches. Batinahu wa zahirahu, c'est-à-dire ce qui est caché de cette religion, c'est-à-dire comme les actes cachés, etc., les actes du cœur, etc., wa zahirahu, et tout ce qui est apparent. Ilmahu wa amalahu, ce qui est en relation avec la science, ce qui est en relation également avec la pratique, avec l'acte. فَإِنَّ هَذَا الْأَصْلَ هُوَ أَصْلُ أُصُولِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ وَكُلُّ مَنْ كَانَ أَعْظَمُ اِعْتِسَامًا وَكُلُّ مَنْ كَانَ أَعْظَمُ اِعْتِسَامًا بِهَذَا الْأَصْلِ كَانَ أَوْلَى بِالْحَقِّ عَمَلًا وَعِلْمًا. Il nous dit également, cher l'islam, que cela, c'est la base des bases. C'est-à-dire le fait que l'on croit et qu'on ait la forte ou la ferme certitude que le livre et la sunna sont complets. Il nous dit ça, c'est l'asr. Et c'est asr al-iman, al-ilm al-iman, c'est-à-dire ce qui c'est la base même de la science et de la foi. C'est la base même de la science et de la foi. Et que celui qui va le plus s'accrocher au livre et à la sunna, c'est celui qui va être le plus droit et qui va être le plus en droit par rapport à la science et par rapport également à la science. Et je crois que c'est une chose qui est évidente pour tout le monde, même pour ceux qui ont des doutes, Allah Musta'an. C'est-à-dire leur dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jusqu'à mis en évidence le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment rentrer dans les toilettes, c'est-à-dire l'adab. Adab, qada al haja. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en évidence cela à sa communauté. Ça, c'est un détail par rapport à tout ce qui englobe la religion. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mis en évidence. Il n'a rien délaissé par rapport à ça. Alors, comment pourrait-on croire qu'il a délaissé ce qui était le plus important, qui est le tawhid? Et c'est en ce sens que l'imam Malik, rahmatullah alayh, imam Dar al-Hijra, il disait, محال أن يكون النبي بين لأمة كل شيء حتى الخراء ولا يكون بين لهم التوحيد. C'est-à-dire il est impossible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait mis en évidence à sa communauté toute chose, même comme on a dit le fait d'aller aux toilettes, c'est-à-dire adab qada al-haja, comment on devait faire, le comportement qu'on devait avoir, ولا يكون بين لهم التوحيد, et il ne leur a pas mis en évidence le tawhid. C'est-à-dire que c'est complet, comme l'a dit Charles Islam Ibn Taymiyyah, في أصوله وفروعه, c'est-à-dire par rapport à ses par rapport à ses bases et par rapport à ses branches. Et c'est pour ça également qu'il disait l'imam Malik, et ça nous rappelle également le fait de s'approcher, et également le fait d'avoir une totale croyance que cette sunna est complète. Il disait l'imam Malik, la sunna tu safina tu nuh. La sunna, il disait, c'est comme le bateau de Nuh, le bateau de Noé. Man rakibaha Naja wa man tarakaha ghara. C'est-à-dire celui qui monte sur ce bateau et donc qui prend cette sunna, il sera sauvé. Et celui qui délaisse sa sunna, il sera quoi? Ghara. C'est-à-dire qu'il va couler. Il va donc al-halak, il va donc se perdre. Wallah musta'an. Le troisième point. On a vu deux points, maintenant le troisième point. في حال النزاع والخلاف يرجعون الى كتاب والسنه. Ça c'est حال السلف. في حال النزاع والخلاف يرجعون الى كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire qu'au moment où il y a un litige entre eux, le moment où il y a une différence entre eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont revenus toujours aux sources, que ce soit le Coran et la sunna, ça de façon continuelle. Et c'est ce qui leur a permis toujours de protéger cette croyance, toujours et de façon continuelle. Ça c'est un asr, ça c'est une cause également, c'est une cause dans la protection qu'ils ont eue de leur croyance. Et bien entendu, tout le monde connaît le verset du Coran, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. C'est-à-dire que si vous vous disputez, vous avez un litige, alors envoyez-le à Allah et au son messager. Si vous croyez en Allah et au jour du jugement dernier, ce sera bien mieux et de meilleures interprétations. Donc ils ont appliqué ce verset. À chaque fois qu'ils ont un litige, ils sont revenus à la sunna, au Coran et à la sunna. Ça aussi, ça a été une des causes. C'est ce qui incombe à tout musulman. Si un musulman, aujourd'hui, il a un litige par rapport à un point, et particulièrement un point de la croyance, alors il doit revenir au livre et à la sunna. Au livre et à la sunna. Ce qui leur a permis de pouvoir protéger ses croyances. Et bien entendu, si on n'aurait pas fait ça, et s'il n'aurait pas fait ça, il serait revenu à quoi? À leur avis, à leur propre avis. Et comme on le sait, on va revenir sur un de ces points, c'est que les avis des gens, ou al-uqul mukhtalifa, c'est-à-dire que les raisons et les intelligences des gens, elles sont toutes différentes les uns des autres. C'est-à-dire qu'une personne va avoir cet avis par rapport à cette question, et l'autre va avoir un autre avis, si elle revient à elle-même, si elle revient à son avis. Et donc automatiquement, c'est impossible, la yumkina l'ittifaq. La yumkina l'ittifaq ou l'ittihad, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais se mettre d'accord, et que, bien entendu, et ça on le reverra, ça va tout simplement engendrer l'irtilaf, ça va engendrer, bien entendu, la division et le schisme dans la communauté. Et donc il sera impossible, en ce sens-là, de conserver cette croyance. Parce qu'on n'est pas revenu au livre et à la sunna, on est revenu à notre propre avis. Wallahu musta'an. Ça c'est pour le troisième point. Pour ce qui est du quatrième point, et qui est un point également important, très important, et qui concerne al-fitra. Al-fitra. Ya salamatu fitarihim. C'est-à-dire que les salafs, ils ont conservé ce qu'on appelle al-fitra, qui est donc un terme bien précis, qui est employé non seulement dans le Coran, mais qui est employé également dans la sunna, et qui en fait, que l'on peut traduire par la prédisposition naturelle, ou que l'on peut traduire par la nature première de l'homme. C'est-à-dire comment l'homme il a été créé. Comment l'homme il a été créé. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un verset qui est connu, rapporté par l'imam al-Bukhari et autres, il dit « Kul mauloudin yulad alash al-fitra » يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. C'est-à-dire que chaque enfant il naît suivant la fitra. Et cette fitra, bien entendu, c'est tout simplement reconnaître le tawhid comme il se doit et être en totale harmonie avec la croyance. Ça c'est la fitra. C'est-à-dire que chaque homme il est né comme ça. Là ça nous a informé que chaque enfant, lorsqu'il naît du ventre de sa mère, il est comme ça, il a une fitra. Et cette fitra, c'est-à-dire cette nature première, si tu la conserves, alors automatiquement, tu vas donc conserver ta croyance première. Lorsque les ordres sont venus d'Allah et du prophète, automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu tout simplement une harmonie. Wata'kid, c'est-à-dire c'était un appui par rapport à ce qu'ils avaient déjà. Donc cette fitra, les salafs, ils l'ont conservé. Ils ont été minutieux dans cela, cette fitra. Et c'est pour ça qu'on sait que ceux qui n'ont pas conservé leur fitra, ils sont tout simplement égarés. Et c'est pour ça que le prophète sallam dans un autre hadith, il nous précise, et il nous dit, salawatullah wa salam alayhi, c'est un hadith qudsi, khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, fa'atatum ash-shayatin, fa'ashtalatuhum an dinihim. Qu'Allah azawajal a créé Ibadi, c'est-à-dire toutes ces créatures hunafa, et le terme bien sûr hunafa qui est le Qur'an de Hanif et qui est celui qui s'est approché au tawhid et qui n'a pas eu de maïd, c'est-à-dire de divergence, ou qui ne s'est pas écarté vers le shirk. C'est comme ça que le Allah Azza wa Jalla nous a créé, c'est de cette façon qu'il nous a créé, donc en reconnaissant le tawhid, en appliquant le tawhid. Et ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Atatum shayatin, fashtaratum andini. C'est-à-dire que c'est les shayatin qui sont venus auprès de cette personne et qui l'ont fait écarter de sa religion. Donc ici, le tawhid, c'est la propre nature de chaque être. Chaque humain. Par contre, ensuite, shirk amrun tari, c'est-à-dire que c'est une chose qui est venue après. Et c'est les shayatin qui ont été la cause et qui ont fait dévier la personne de sa propre fitra. Donc, bien entendu, les salafs, par rapport à cela, ils ont mis l'accent sur comment conserver leur fitra. يقول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون. C'est-à-dire, c'est la fitra qu'Allah عز وجل il a créée. C'est-à-dire qu'il a chaque personne il l'a créée suivant cette fitra, et qu'il n'y a pas de changement dans la création d'Allah, aucun changement dans la création d'Allah, et que cela est la religion droite. Regardez comme il dit ensuite Allah, c'est la religion droite. Voilà qu'il n'a que ça, il y a la plupart des gens ne savent pas. Allah musta'an. Donc là, l'intégrité de la fitra est en relation étroite avec l'intégrité de la source dont on puise nos connaissances en matière de croyance. Ça, c'est un point aussi qui est important. C'est en étroite relation. Ces deux choses sont en étroite relation. Et donc, le livre, celui qui suit la livre et la sunna, sa fitra ne change pas. Voilà, celui dont sa fitra avait changé, lorsqu'il revient au Coran et la sunna, il va tout simplement réformer sa fitra comme elle était à la nature première. Et pour ce qui est de celui qui, de ceux qui suit les passions, c'est-à-dire, bien entendu, que le résultat, ça va être totalement le contraire. La cinquième, le cinquième point, sihatu uqulihim, c'est-à-dire qu'ils ont eu, ils ont une pensée, ils ont une raison, les salafs, qui est intègre et authentique. L'intégrité et l'authenticité de leur raison et de leur pensée. Sihatu uqulihim. Ça, c'est également une des causes qui a fait qu'ils ont conservé leur religion ou leur croyance comme elle était. Ça, c'est le cinquième point. Et on voit que les gens de la sunna du consensus. Ici également, on va s'apercevoir d'un point que l'on va y revenir, qui va être aussi un point mustaqil. C'est-à-dire qu'ils ont été sur le juste milieu, les gens de la sunna du consensus. Baina al-tafrit wa al-ifrat, baina al-jafa wa al-ghulu, baina al-naqs wa al-ziyada. C'est-à-dire qu'on va voir dans l'islam que certaines personnes, ils ont exagéré par rapport à leur intelligence, par rapport à leur aql. Et d'autres, au contraire, ils l'ont complètement délaissé. C'est-à-dire entre deux sectes, ou entre deux sortes de gens qui se sont égarés. L'une qui se sont reposées totalement sur leur aql, et d'autres qui ont délaissé totalement leur aql. Pour ce qui est de ceux qui sont reposés complètement sur l'aql, sont bien sûr et principalement les philosophes. Et également Arbab al-Kalam, Ashab al-Kalam, c'est-à-dire les gens de la science spéculative. Ça, c'est les gens qui sont revenus pour leur croyance sur quoi? Sur leur aql. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont placé leur aql, ils leur ont donné un niveau plus qu'elle ne valait. Ça, ce qu'on appelle le rouleau. Et c'est ce qu'on appelle l'ifrat, c'est-à-dire ils ont été bien plus haut, ils l'ont passé bien plus haut de ce qu'elle est leur aql. Ça, c'est pour ces gens-là. Et donc, ils ont délaissé ce qui est venu d'Allah et du prophète sallam pour revenir à quoi? À leur propre intelligence, à leur propre raison. D'un autre côté, ceux qui ont complètement délaissé l'aql. Et vous savez qui c'est? Principalement, les soufis, qui ont été faire des choses que même l'aql, même celui qui est l'aql, et qui ont eu des croyances que même celui qui est l'aql ne peut pas accepter. C'est-à-dire qu'ils ont délaissé complètement quoi? Ils ont mis à l'écart complètement leur aql. Ça, c'est pour ce qui est des soufis. Et à le sunnati wal jama'a, les salafs, ils ont été sur le juste milieu. Ils ont donné à l'aql sa juste valeur. Ils ont donné sa juste valeur. Baina al-ifrat wa al-tafrit, ou baina al-tafrit wa al-ifrat, baina al-jafa, ou baina al-ghulu, ou baina al-naqs wa al-ziyada. Donc ça aussi c'est un point qui est important. C'est pour ça que beaucoup de salafs disaient لو كانت الأهواء هواء واحدا لقيل إنه الحق ولكنها أهواء. De même pour l'aql. C'est-à-dire certains salafs disaient que si les passions qu'on a c'était une seule passion, alors on aurait dit que c'était la vérité. C'est-à-dire que tout le monde aurait suivi la même passion. Mais il y a plusieurs passions. Donc les gens vont tous suivre leur passion, ils vont tous diverger automatiquement. Donc ça c'est une preuve que ce n'est pas le haq, que ce n'est pas la vérité. Et que la vérité elle est une seule. Et c'est pour ça de même pour ce qui est de l'haq. Les intelligences et la raison elles varient. Une personne elle a une façon de penser. Une personne elle a, comment dire, une raison qui est particulière à elle. Une façon de penser qui est particulière à elle. Ça veut dire qu'il y aurait eu autant de religions, si on serait basé sur ça, il y aurait autant de religions qu'il y a eu en fait d'espèces d'hommes. Wallah musta'an. Wa hadha fasid. C'est quelque chose bien entendu qui est qu'on ne peut accepter. Et c'est pour ça, pour ce qui est de l'aql, si maintenant on voulait, pour faire prendre conscience à ces gens, et pour faire prendre conscience également que les salafs, ils ont placé leur aql, c'est-à-dire leur raison, au juste milieu. Qu'ils s'en sont servis, mais qu'ils sont revenus au Coran et à la sunna. Et on sait bien entendu. Ça, c'est une question qui est claire. Et même Charles Islam Ibn Taymiyyah, il a écrit des tomes par rapport à cela. On sait qu'il n'y a aucune divergence et aucune différence entre Al-Aql Salim, c'est-à-dire la raison qui est saine et la croyance qui est bonne. Il n'y a aucune contradiction entre les deux. Aucune contradiction. La contradiction qu'il va avoir, c'est avec Al-Aql Fasid, avec la raison qui n'est pas justement authentique et qui n'est pas saine. Wallah al-musta'an. Et l'exemple que l'on donne, comme par exemple pour la vue. La vue, elle a une limite. On sert de notre vue, mais elle a une limite. Parce que tu peux voir derrière le mur, tu peux pas. Donc la vue, c'est un sens, et également les autres sens, comme l'ouïe, etc. C'est un sens qu'on a. Elle a une limite. C'est-à-dire, on s'en sert, on laisse pas de côté, mais également on sait où elle s'arrête. De même, là. De même, pareil. C'est-à-dire qu'on peut pas rentrer notre intelligence et notre façon de penser et notre raison sur des points de la croyance, sur certains points de la croyance, comme par exemple, qualifié à tous ces faciles-là. C'est-à-dire, comment comprendre le comment des sifats d'Allah Azzawajal, des attributs d'Allah. Ça, c'est une chose qui n'est pas possible. L'aql, elle s'arrête ici. Comme notre vue, elle s'arrête ici, de même. Donc, on doit s'arrêter ici, de ne pas aller plus loin. Et donc, revenir par rapport à cela au livre et à la sunna, et ce qui nous est parvenu. Ça également, c'est un point qui est important. Et c'est pour ça qu'Allah Azzawajal dit « Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayati li ulil albab. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. » Qu'est-ce ? Ils réfléchissent. Tu réfléchis comment ? Avec ton aql. « Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. » C'est-à-dire, ils réfléchissent, bien sûr, de par leur aql, sur la création des cieux et de la terre. Le sixième point est également qui est un point qui est important. Nufus salaf mutma'inna yash'ur kullu wahid minhum ar-raha. C'est-à-dire que les âmes et le fort intérieur des salaf, il était tout simplement apaisé et serein. Et que chacun ressentait cela au plus haut degré, c'est-à-dire au plus haut degré d'apaisement et de sérénité. Ça également, c'est un point qui était une des causes qu'ils sont restés sur leur croyance droit et qu'ils ont conservé et protégé cette croyance, c'est-à-dire la sérénité du cœur. Donc ils ont ressenti ce bienfait, ce bonheur. Et ça, c'est ce que tout le monde doit ressentir. Celui vraiment qui s'accroche à sa religion et qui est vraiment sur la voie des salafs par rapport à cela, c'est ce qu'il doit ressentir au fond de son cœur. C'est-à-dire qu'il doit ressentir ar-raha, il doit ressentir le bonheur, il doit ressentir vraiment l'apaisement dans son cœur. Alhamdulillah que j'ai suivi cette voie. Et qu'Allah Azza wa Jalla waffaqani, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla m'a donné la réussite pour que je connaisse cette voie, pour que je la suive et pour que je m'y comprenne. La personne, elle doit ressentir cette sérénité au fond du cœur. Et c'est ce qu'ont fait les salafs. C'est une des causes qu'ils ont conservées et qu'ils sont restés et qu'ils ont eu une ferme croyance. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب c'est-à-dire ceux الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم c'est-à-dire ceux qui ont cru et dont leurs cœurs sont apaisés, n'est-ce pas par le rappel d'Allah Azzawajal que le cœur est apaisé, eux ils se rappellent d'Allah Azzawajal suivant leur croyance qui est saine. Ils ont une croyance qui est saine par rapport à Allah, par rapport à ses attributs, par rapport à ses noms, par rapport à tout ce qui concerne la religion. Tout ce qui concerne la religion, tous les points de la croyance, ils sont sereins par rapport à cela. Ils savent que c'est la vérité, que c'est le haq, et ils ont une sérénité qui est complète. Il dit Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahmatullah alayhi. Qu'est-ce qu'il dit Ibn al-Qayyim ? Une belle parole, écoutez. Yaqul sukun al-qalb ila shay'in wa wuthuquhu bihi wa hadha la yakun illa bil yaqin, illa ma'a al-yaqin bal huwa al-yaqin bi'aynihi. Thumma yaqul wa li hadha tajid قلوب أصحاب الأدلة السمعية يعني أهل السنة مطمئنة بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته واليوم الآخر لا يضطربون في ذلك ولا يتنازعون فيه Qu'est-ce qu'il nous dit القيم؟ Il nous dit que سكون القلب لا شيء, c'est-à-dire la sérénité du cœur qui va vers une chose et l'apaisement et sa pleine confiance en cette chose-là. Cela n'est possible qu'avec la certitude. On va revenir également sur la certitude, même si c'est un point qui est proche, mais qui est également un point mustaqil, c'est-à-dire qui est indépendant. Il dit yakun ma'al yaqin, bal wal yaqin bi'aini. C'est même la certitude même. C'est-à-dire qu'on soit certain et qu'on soit serein de ce que l'on a acquis comme croyance et que c'est la vraie croyance. C'est pour ça que tu vois les gens qui détiennent les preuves auditives, c'est-à-dire il veut dire par là bien sûr les preuves tirées du Coran et de la Sunna, et il veut dire par là les gens de la Sunna et du consensus qui reviennent à ces sources-là. Ils sont sereins par rapport à leur croyance en Allah, par rapport à ses noms, par rapport à ses attributs, par rapport à ses actes, les actes d'Allah, et également les anges, et par rapport également au jour dernier. Tout ce qui est venu donc dans la croyance, comme on l'a précisé. Et lui, il dit, ils ne se disputent pas, et ils ne divergent pas, et ne se contredisent pas les uns aux autres par rapport à cela. Ils ne sont pas instables ou perturbés intérieurement par rapport bien sûr à cette croyance. Ce qui est le contraire des gens de l'innovation et des gens qui ont suivi leur passion. Jamais tu trouveras dans leur cœur abadan la sérénité. Impossible. C'est pour ça qu'il dit Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah. Également, on parle de Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah. Il dit وَأَمَا أَهْلُ سُنَّةِ وَالْحَدِيثِ فَمَا يُعْلَمَ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَائِهِمْ وَلَا صَالِحَ عَامَتِهِمْ رَجَعَ قَطٌ عَنْ قَوْلِهِ وَاعْتِقَادِهِ بَلْ هُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ صَبْرًا عَلَى ذَلِكَ وَانِمْتَحَنُوا بِأَنْوَاعِ الْمِحَنِ وَفُتِنُوا بِأَنْوَاعِ الْفِتَنِ وَهَذَا حَالُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَتْبَاعِهِمْ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ. Qu'est-ce qu'il dit Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah? Il dit que les gens de la Sunna et du Hadith, les gens du Hadith, on ne connaît pas parmi leurs savants, les savants ces gens-là, mais on ne connaît pas également parmi les dieux du commun des musulmans parmi eux. Ceux qui ne font pas partie des gens de science, mais qui suivent cette croyance-là, et qui ont la foi totale dans cette croyance-là, et qui font partie des gens pieux, sans être des savants ou des gens de science. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'on n'a pas connu une de ces personnes-là qui est revenue de sa parole ou qui est revenue de sa croyance. C'est-à-dire qu'un jour il a dit cette croyance-là et qu'il est revenu sur sa croyance. Ou qu'il a dit cette parole-là qui concerne la croyance et il est revenu un autre jour de cette croyance-là. Ça, jamais on l'a vu. C'est Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah qui témoigne. C'est pas moi, c'est ni vous. C'est Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah qui témoigne. Et qui a vu et qui a toute sa vie lu la croyance des salafs à travers leurs livres qu'ils ont écrits, comme on a dit, des milliers de livres qu'ils ont écrits, comme on a vu en début de cours. Jamais vu une personne parmi eux, les gens de la Sunna du Hadith, qui sont revenus sur leur croyance. Et il dit ensuite بَلْ هُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ صَبْرًا عَلَى ذَلِكَ. Ce sont les gens qui ont le plus de patience par rapport à cette croyance-là. Comme il dit ensuite, si par exemple ils sont éprouvés d'une grande épreuve. S'ils sont éprouvés d'une grande épreuve, on va voir que c'est des gens qui auront plus de patience par rapport à cette croyance. Et jamais ils vont la délaisser, cette croyance. Et ça, bien sûr, on se rappelle un des exemples dans l'histoire de l'islam, Mihnat l'imam Ahmed, c'est-à-dire l'épreuve de l'imam Ahmed. Comment l'imam Ahmed, pourquoi? Pour une question de croyance. Pour un seul point de croyance qu'il a subi l'imam Ahmed. Et ça, on avait déjà fait un cours sur cela, et on avait détaillé ce qu'a subi l'imam Ahmed et ce qu'il a vécu durant une grande partie de sa vie, simplement pour un seul point de la croyance, qui était al-qawl bi khalq al-Qur'an, c'est-à-dire ceux qui ont dit parmi les Mu'tazila, qui ont dit que la parole d'Allah, elle était créée. Il s'est battu pour ça, l'imam Ahmed, jusqu'à la fin de sa vie. Et il a failli mourir pour cela, même il a eu les plus grandes peines et les plus grands châtiments, le plus grand des châtiments, qui est le fouet, à cause de cette parole-là. Et malgré cela, il est resté juste. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé bihaqqin imam al-sunnati wal-jama'a, c'est-à-dire l'imam des gens de la sunna du consensus. Et c'est pour ça qu'on a dit que Allah Azza wa Jal thabbatahu, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal lui a donné son tawfiq, il lui a donné son thabat, c'est-à-dire qu'il lui a donné son affermissement, qu'il l'a affermi Allah subhanahu wa ta'ala dans cette grande épreuve. Et que s'il n'avait pas été, si Allah Azza wa Jal ne l'avait pas affermi dans cette grande épreuve, toute la communauté se serait égaré. Toute la communauté se serait égaré. Wallah musta'an. Donc on voit que ce sont les gens, ces gens-là, qui ont la plus grande patience par rapport à l'épreuve lorsqu'elle touche cette croyance-là. Ce qui prouve, si on revient donc au sujet, ce qui prouve, c'est qu'ils ont une sérénité totale, une certitude totale dans leur cœur par rapport à cette croyance. Regardez également ce que dit un des savants, Abdel Haq al-Ishbili. Il dit une parole également qui est importante à comprendre et qui est en relation également avec Sou al-Khatima. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَعْلَمْ أَنَّ سُوَ الْخَاتِمَةَ أَعَاذَنَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهَا لَا تَكُنْ لِمَنْ اسْتَقَامَ ظَاهِرُهُ وَصَلُحَ بَاطِنُهُ مَا سُمِعَ بِهَذَا وَلَا عُلِمَ بِهِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. وإنما تكون لمن له فساد في العقل أو القلب أو إصرار على الكبائر أو إقدام على العظائم. Qu'est-ce qu'il dit عبد الحق؟ comme l'a rapporté Ibn al-Qayyim de lui dans son livre Al-Jawab al-Kafi, il dit sache que sous al-Khatima, vous savez ce que c'est sous al-Khatima, c'est-à-dire une mauvaise fin, avoir une mauvaise fin. Il dit qu'Allah nous en protège et il dit cela n'est jamais arrivé, cela n'arrive pas d'une personne dont son extérieur est la droiture, donc il est droit par rapport à son extérieur, jamais. Et également que son intérieur est également droit et intègre. Il dit ça, c'est jamais arrivé au Allah. On n'a jamais entendu une personne dont son extérieur va au Mustafa, droit, et son intérieur droit, on n'a jamais entendu une personne qui a mal fini, qui a eu le sou al-Khatima. Il a dit jamais on a entendu parler de cela. Walillah alhamdu. Wa inna ma takun liman lahu fasadun fil qalb. Peut-être toi, tu le vois, tu es vaillant en apparence, mais dans son cœur, il y a le fasad. Et dans son cœur, il est loin d'être serein. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une croyance qui est totale. Il ne s'est pas soumis totalement à Allah Azzawajal. Et sa croyance n'est pas conforme totalement à la croyance qu'on devrait avoir. Au niveau théorique, au niveau pratique également. Donc ça vient de ces gens-là. Et ceux également qui font les grands péchés. Peut-être devant toi, il est en bon état, ou son vailleur est en bon état, mais qu'est-ce qu'il fait derrière? Qu'est-ce qu'il fait derrière? C'est pour ça qu'on voit des gens, on s'en étonne, des gens, subhanallah, à la foulaine, yani multazim, kayf yani harafa, yani de quelle façon il a mal terminé, mais lorsqu'on sait ensuite sa vie, ou lorsqu'on yam kashif al-hal, c'est-à-dire que les choses viennent au clair, on s'aperçoit que c'est autre chose. Et on s'aperçoit qu'il ne faisait pas partie des gens que Abd al-Haq il a cité au début de sa parole. La septième cause est une cause également qui est censée être fondamentale. Il nous a rappelé le cheikh Abd al-Razzaq, irtibatuhum, c'est-à-dire salaf, bifam salaf salih. C'est-à-dire leur attachement à la compréhension des pieux prédécesseurs. Ça également, c'est une des causes fondamentales qui a fait que les gens de la sunna du consensus, ils sont restés sur le droit chemin. Ils ne sont pas égarés, ils n'ont pas dévié dans leurs croyances. C'est qu'ils ont rattaché leur compréhension du livre et de la sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Ça, c'est ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est une des causes fondamentales qui ont fait qu'ils n'ont jamais dévié. Et bien entendu, comme on l'a dit en début, salaf salih, tout simplement, c'est un terme qui est simple à comprendre. C'est tout simplement les plus prédécesseurs qui se sont à la tête de sahaba, les compagnons. C'est-à-dire comment les compagnons, ils ont compris le Coran et la Sunna. Comment les tabi'in, c'est-à-dire ici, les disciples des compagnons, ils ont compris le Coran et la Sunna. Et comment atba'a tabi'in, c'est-à-dire ceux qui les ont suivis également, ils ont compris le Coran et la Sunna. Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Pourquoi cela me dit, la meilleure des gens sont mes. Ce sont mon siècle, le siècle où je vis. Ensuite, celui qui vient après, ensuite celui qui vient après. Al-Qurun al-Mufaddala, c'est-à-dire les meilleurs gens de ces siècles-là, qui font partie des trois siècles, bien entendu, et qui sont connus, que les gens de science ont mis en évidence dans leurs livres. Et bien entendu, c'est ce qu'on appelle le salaf. Et c'est ce qu'on appelle donc al-Irtibat bifam salaf salih, c'est-à-dire se raccrocher à leur compréhension à eux. Et pourquoi cela? Eux, ils ont eu, comme on a dit, sihatul uqul, c'est-à-dire ils ont une raison qui était saine, les sahaba. Ils ont eu également une intention qui était vertueuse. Et ils ont eu également une pureté du cœur. Et ils ont pris leur science directement du prophète, sallam. Alors comment ne pas prendre leur compréhension à eux et la délaisser et prendre une compréhension autre qu'eux? Ala marqul, est-ce que cela, yani, c'est quelque chose qui est intelligible, Allah al-Musta'an? Ala kulli hal, c'est tous ces caractéristiques qui ont fait qu'on a pris la science d'eux et qu'on a appliqué notre compréhension suivant la compréhension qu'eux ils ont eue. Également un point qui est important, c'est maintenant lorsqu'on parle d'une, c'est une parenthèse que je fais par rapport à ce point-là, lorsqu'on parle maintenant d'un point de science, on sait que lorsqu'on veut affirmer une parole qui est en considération avec la religion de façon générale et plus particulièrement avec la croyance, il faut par rapport à ça quatre étapes. Il faudrait par rapport à ça quatre étapes. Et la quatrième étape, c'est ce qui va être en considération avec ce qu'on est en train de parler et qui est ici la septième cause. La première chose, Al-Dalil, la Bouddha mille Dalil, on l'a vu. On l'a vu en début de cours, Al-Dalil. C'est-à-dire la preuve. Donc il faut que tu apportes une preuve. Tu dis cette parole-là, toi, Foulen, tu dis cette parole-là par rapport à la croyance, apporte ta preuve dans un premier temps. Ensuite, Sihatud Dalil, c'est-à-dire l'authenticité de la preuve. Si bien entendu elle est dans le Coran, Alhamdulillah, Faina, c'est-à-dire ça nous suffit. Si par contre elle est dans la Sunna, alors ici il va falloir voir si le hadith est authentique. Et revenir bien entendu aux gens de science, ceux qui ont différencié les hadiths qui sont non authentiques de ceux qui sont authentiques. Ça c'est la deuxième étape. On est à Sihatud Dalil. La troisième étape c'est Al-Shahid, ce qu'on appelle le témoin argumentatif. On va te rapporter une preuve. Dans cette preuve-là, il peut avoir plusieurs témoins argumentatifs. Qu'est-ce que tu veux par cette preuve-là exactement? Quelle est la phrase exactement que tu veux? C'est pour ça que des moments, les savants, lorsqu'ils rapportent une preuve de la sunna, ils rapportent simplement un shahid. Ils appellent ça un shahid, c'est-à-dire ils rapportent simplement le témoin argumentatif. Si le hadith il est long, ils rapportent simplement ce qu'ils ont besoin. Et c'est ce qu'a fait également l'imam al-Bukhari dans son authentique. On voit que dans beaucoup de hadiths, on sait que le fiqh de l'imam al-Bukhari, c'est d'envers le titre qu'il donnait au chapitre. On voit ici qu'apparaît le fiqh de l'imam al-Bukhari. Et après, l'imam al-Bukhari, par rapport au titre qu'il a donné dans ce chapitre-là, et qui va faire référence au fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence de l'imam al-Bukhari, il va rapporter la preuve. Et bien souvent, il rapporte une partie de la preuve, une partie du hadith. C'est pour ça que ce hadith-là, tu vas le retrouver dans un autre contexte, bien plus long. Et que dans certains contextes, il s'est tout simplement, il a rapporté la partie principale et ce qu'on appelle la shahid, c'est-à-dire le témoin argumentatif, et qui va nous profiter ici pour ce qui est de prouver ce que l'on veut argumenter par rapport à un point, de façon générale en religion ou particulièrement dans la croyance. Et la quatrième étape, et c'est là que c'est important, wajhul istidlal, c'est-à-dire l'aspect argumentatif, c'est-à-dire comment on va comprendre cette preuve-là. Tu as apporté la preuve, tu as dit qu'elle est authentique, tu as mis en évidence le témoin argumentatif, comment maintenant on comprend cette preuve? On s'aperçoit que certaines personnes ils rapportent des preuves du Coran pour dire tout simplement contraire à ce qu'englobe ce verset-là. Ou pour rapporter, ou pour argumenter des choses qui sont complètement fausses. Et qui n'ont aucune existence dans la religion. Tout simplement, ils l'ont compris comment? Bifahmihim hum. Ils l'ont compris de par leur compréhension, eux. Ils ne sont pas revenus à la compréhension de qui? Les sahaba, les salafsaliens, ils ne sont pas revenus à la compréhension des que prédécesseurs. Et c'est ici, où je l'ai dit d'aller, c'est la quatrième partie. C'est à ce moment-là qu'intervient cette compréhension. Et c'est là qu'il y a le taqiyyah, c'est-à-dire c'est ici qu'on va se baser pour comprendre les preuves de la sunna, du Coran et de la sunna. Donc là aussi c'est un point. Et c'est comme ça qu'on fait les salaf. C'est comme ça qu'on fait les gens de la sunna et du consensus qu'ils ont suivi dans leur ta'lif, c'est-à-dire dans leur cours et dans ce qu'ils ont écrit au niveau de la croyance. Et autres. Il dit l'imam Sajzi, celui qui est le sahib kitab al-rad ala man ankara al-harf wa sout, il dit هم يتكلم عنهم هم الثابت على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم فيما لم يثبت فيه نص في الكتاب ولا عن الرسول. C'est-à-dire ce sont ceux qui sont فعل ثابت. Comment on dit ثابت ثبات وعقيلة السلف. Hum thabitun, ceux qui sont fermes sur la croyance de ce qui était transmis à eux par les salafs. En ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne le prophète, ou an sahaba, ou en ce qui concerne qui? Les compagnons. Il dit à quel moment, là où on n'aura pas une preuve directe de la sunna du prophète. Ils vont revenir où à ce moment-là? Ils vont faire preuve de fermeté par rapport à quoi? Par rapport à la parole des compagnons. Et qui sont bien sûr à la tête des salafs. Donc ça, c'est la parole de cet imam. Et qui nous prouve donc qu'il revient à qui? Après le prophète Sam, il revient aux compagnons. Et tout simplement, comment on l'a expliqué au début? Parce que ce sont eux qui ont pris tout simplement et qui sont sortis de l'école du prophète. Salawatullah wa salam wa alayhi. Et pourquoi il nous dit لِأَنَّهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَيْمَّةٌ وَقَدْ أُمِرْنَا بِيَقْتِدَاءِ آثَرِهِمْ وَاتِّبَاعِ سُنَّتِهِمْ. Comme on a vu dans le hadith. عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين. C'est-à-dire, il nous dit ici qu'on nous a obligés de suivre leur voie et de se diriger dans ce qu'ils se sont dirigés. Ça, Umir l'a dit, c'est une obligation. C'est-à-dire, on nous a obligés de cela. Et on voit dans le hadith du prophète. عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين. Et il dit وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى إقامة برهان والأخذ بالسنة ويعتقادها مما لا مرية في وجوبه. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'apporter des preuves par rapport à ce qu'on est en train de parler, par rapport à ce qu'on est en train de dire, tellement que c'est évident. Tellement que c'est évident pour chacun de nous. Et il nous dit, il n'y a même pas de doute par rapport à cela. On n'a pas besoin de preuves, qu'il n'y a même pas de doute par rapport à cela. Le fait de prendre de la sunna et le fait d'y croire fermement. Et de croire, bien entendu, et de prendre de ce qui est venu des sahaba qui eux l'ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, directement ou indirectement. Il nous rappelle également Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. On rappelle beaucoup des paroles des savants parce que c'est important, Wallah c'est important. Et ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. Et ça nous permet également de réfuter ce que beaucoup de gens disent par rapport à ceux qui disent suivre les salafs. Regardez ce qu'il dit Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Et on va voir qu'on n'est pas venu avec une chose nouvelle. Ça aussi c'est important. De rappeler les paroles de ces savants-là, et de savoir qu'on les suit, et de savoir d'où ils ont pris eux, c'est une preuve et une évidence qu'on n'est pas venu avec quelque chose de nouveau, qu'on n'est pas venu avec une religion qui est nouvelle ou une secte qui est nouvelle. Ayyadun billah, on est revenu tout simplement aux sources. Regardez ce qu'il dit Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Wala tajid imaman fil ilm wad-din ka Malik wal-Awza'i wath-Thawri wa Abi Hanifa wash-Shafi'i wa Ahmad wa Ishaq ibn Rahawiya wa mithl al-Fudayl wa Abi Sulayman wa Ma'ruf al-Kalkhi وأمثالهم إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضائل والمناقب. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah? Il nous dit que tu trouveras pas un imam parmi l'imam Malik, parmi également l'imam Al-Awza'i wa Thawri wa Abu Hanifa ou l'imam Al-Shafi'i ou l'imam Ahmed, les imams des quatre madhabs encore, qui nous rappellent Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, les autres savants qu'on a cités. Il nous dit que tous disent de manière explicite que la meilleure des sciences qu'ils ont eues, c'est ceux qu'ils ont pris de qui? De ceux qu'ils ont suivis dans la science des compagnons. Ceux qu'ils ont suivis par rapport à la science des compagnons. Et ils disent que tous, ils voient que les compagnons, ils sont au-dessus d'eux, dans Fijami al-Abwab, c'est-à-dire dans toutes les portes de la religion. Que ce soit le fadail, c'est-à-dire les actes méritoires, également le manaq, et que ce soit les vertus. Il n'y a jamais eu d'homme meilleur qu'eux. Donc ils ont pris leur science d'eux. Ils les ont appliqués. Et nous, on a pris d'eux. Et ainsi de suite. Ça également, c'est un point qui est important qu'on a oublié de souligner, on aurait pu dire en introduction. C'est que cette croyance-là, elle est venue par transmission. Elle nous a été transmise. Et c'est pour ça que beaucoup de savants disaient Al-Isnanu min ad-Din, Al-Isnadu min ad-Din, falawla al-Isnada la qala man sha'a ma sha'a. Il y a beaucoup de savants qui disaient que l'isnad, elle fait partie de la religion. L'isnad qui est en fait la chaîne de transmission. Et elle nous a été transmise, cette religion. Donc c'est l'isnad, chaîne de transmission. On a des chaînes de transmission, nous. Et cette chaîne de transmission, elle fait partie entière de la religion. Elle fait partie entière de la religion. Et s'il n'y a pas eu ces chaînes de transmission, on n'aurait pas pu avoir accès à l'authenticité des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également du Coran. Le Coran également par transmission. Du tawatur. Le Coran également par transmission. Alors automatiquement, qu'est-ce qui serait passé? Chacun aurait dit n'importe quoi de ce qu'il aurait voulu. Il aurait pu rester de din. Notre religion serait comme la religion aujourd'hui des chrétiens ou des juifs. Wallah al-musta'an. Et c'est pour ça que vous voyez que les gens de l'innovation, les principalement les shi'a, c'est-à-dire les chiites et d'autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait un tarjal sur le din, pour la plupart d'entre eux. Mais la plupart d'entre eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement ta'anouf les sahaba. Ils ont en fait discrédité les sahaba, les compagnons. Pourquoi? Au moment où on discréditait les compagnons, ils ont discrédité, ils ont en fait cassé le lien qu'il y a entre nous et qui est le kitab au sunnah. Ils ont coupé ce lien-là. C'est-à-dire que maintenant, si on discrédite les sahaba, c'est terminé le dîme. Qui c'est qui nous a rapporté les paroles du prophète? Qui c'est qui a appris le Coran qui nous a rapporté le Coran? C'est qui? C'est les sahaba. Donc là, regardez la méthode qu'ils ont employée pour en fait discréditer le dîme. Pour que fiakhir mataf, pour qu'à la fin du tournant, qu'est-ce que quoi? C'est qu'ils discréditent le dîme. Ils ont tout simplement parlé sur qui? Sur les sahabas. Donc regardez encore l'importance qu'il y a. Lorsqu'on voit eux, comment ils ont agi, on voit l'importance, nous, de se rapprocher à leur compréhension. Wallah al-musta'an. Il dit aussi une parole, Ibn Qutayba, rahimallah. Il dit également une parole qui est importante. Il dit, « Walou aradna, rahimakallah, an antaqila an ashab al-hadith » ونرغب عنهم إلى أصحاب الكلام ونرغب فيهم لخرجنا من اجتماع إلى تشتت وعن نظام إلى تفرق وعن أنس إلى وحشة وعن اتفاق إلى اختلاف وعن اتفاق إلى اختلاف. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit si on avait voulu se déplacer, c'est-à-dire délaisser les gens du hadith et aller vers les gens du kalam. Les gens, en fait, de la science spéculative. Qu'est-ce qui serait passé? On les aurait délaissés, on serait sortis d'eux, on aurait pu voir cela. Qu'est-ce qui serait passé? Il dit, on serait sortis d'un rassemblement à des fractions différentes des divisions. Minishima, il a tachatut. Parce que c'est hal, haoula. Aba ahwal et haoula. C'est-à-dire, c'est la situation de ces gens-là. Et ensuite, il nous dit, an nidam, il a tafarruh. C'est-à-dire, d'un ordre à un désordre. Et ensuite, an unsin, il a wahsha. C'est-à-dire, d'une fraternité à l'adversité. On va voir également un des points qui est important, c'est de regarder le devenir et l'état des gens d'innovation. Et également, il nous dit un ittifar il a irtilaf, c'est-à-dire d'un accord à un désaccord, une divergence, un schisme. Ça aurait été le résultat si on aurait délaissé les gens du hadith, on aurait été vers ces gens-là. Wallah musta'an. Et bien entendu, pour finir, pour ce point-là, et le verset que tout le monde connaît, qui est une preuve évidente également, qu'on aurait pu citer dès le départ, mais on finit par ce verset-là, le Coran, وَمَا يُشَقِّ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ce qui veut dire ce verset, c'est un verset qui est important et qui est également fondement dans ce qu'on est en train d'avancer et qui était le septième point. يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Regardez bien qu'on doit comprendre le verset. عِنْدَنَا دَلِيلٌ وعندنا نصيحة الدليل سيرسى القرآن. Maintenant الشاهد وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا هو الشاهد ويتبع غير سبيل المؤمنين. وجه الاستدلال. Dans un premier temps, la traduction du sens du verset. Et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui est apparu et sur un sentier autre que celui des croyants, alors on lui collera ce qu'il s'est collé et le brûleront en enfer et quelle mauvaise destination. Taïb. On a dit ici que l'argument, la preuve on l'a, c'est un verset du Coran. Son authenticité, elle est claire. Maintenant, al-shahid, c'est ici. Wayattabi ghayr sabil al-mu'minin. C'est-à-dire, et pris un sentier autre que celui des croyants. Et pris un sentier autre que celui des croyants. Wajul istidlal, l'aspect argumentatif. Allah Azza wa Jal nous dit au début « وَمَا يُشَاقِقِ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى » C'est-à-dire celui qui fait schisme avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne suffit pas pour qu'il soit fait de balade. Ça ne suffit pas pour qu'il soit égaré, cette personne-là. Je pose la question. Ça ne suffit pas qu'une personne a fait scission avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit dans le garment. Après que la bonne voie lui soit apparue, après qu'il ait vu la bonne voie, qu'il ait vu la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yazid, c'est-à-dire il va dire autre chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqul wa yattabi ghayra sabil mu'minin. Et il suit une autre voie que ceux des croyants. Et les croyants, c'est qui? Qui sont les meilleurs des croyants? Ce sont les sahab, ce sont les compagnons, ce sont eux les meilleurs des croyants. Et le prophète Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa yattabi ghayra sabil mu'minin. Il suit une autre voie que ceux des croyants. Donc ça, c'est une preuve claire et nette dans ce verset-là que non seulement on nous a obligés de suivre le Coran et la Sunna, ici la Sunna, et également de suivre les compagnons. Et comment les suivre? C'est dans la compréhension qu'ils ont eue du livre et de la Sunna. Donc tout est en relation. Et tout est une suite, et tout est une chaîne. On s'arrête ici pour Inch'Allah. On a tafi bid al-qadr, Inch'Allah wa ta'ala, wa nwasil Inch'Allah par le salat قال صلاة المغرب بإذن الله لتكملة الدرس والله الموفق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.